les jardinières.
Bonjour tout le monde et bonjour à vous Sarah.
Bonjour Stéphanie, bonjour et bienvenue à notre invité Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves.
Bonjour tout le monde.
Après ces quelques semaines de pause estivale, les jardinières sont de retour, revigorées de champs de fleurs, de prairies radieuses et de larges espaces verts. Nous sommes toutes fraîches pour recevoir vos questions jardinage. Vos jardins ont-ils bien vécu vos départs en vacances? Vos potagers ont-ils survécu aux fortes chaleurs? Comment envisager la suite de l'été? Toutes vos interrogations vont être traitées comme il se doit.
Comment poser votre question? Alors, on ne change pas les bonnes habitudes pour cette rentrée. Vous pouvez nous envoyer votre question par formulaire internet en allant sur le site ou nous envoyer un SMS au 939 en commençant votre message par le mot « jardin » suivi d'un espace. Et finalement, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute pour bénéficier des conseils personnalisés de Jean-Pierre Ribaud, notre jardinier professionnel.
C'est dit, on enfile nos gants, on prend notre bloc-notes et c'est parti pour les jardinières jusqu'à 8h.
Les jardinières.
Comme Sarah l'a expliqué, vous pouvez nous poser vos questions durant l'émission. Vous pouvez également le faire à n'importe quel moment de la semaine. Dès qu'une question vous vient en tête, en vous baladant dans votre jardin ou simplement en admirant vos plantes d'intérieur, c'est ce qu'a fait Marie avant les vacances grâce à notre formulaire internet.
Et Marie a vu d'étranges petites créatures s'attaquer à son basilic. Par contre, impossible de les identifier. Elle demande si Jean-Pierre aurait un indice pour savoir ce que sont ces petites bêtes qui s'attaquent au basilic.
Oh oui, bien sûr. Bonjour Marie. Certainement que son basilic est attaqué par un otorynque. C'est un petit parasite qui se cantonne dans le sol durant la journée. Et puis la nuit, à la fraîcheur, il grappille les feuilles de son basilic. Il monte sur les tiges pour dévorer les tours de son feuillage. Et la lutte contre l'otorynque, elle est uniquement biologique. On peut acheter dans le commerce du nématode, un petit insecte vivant qu'on répartit sous la surface des feuillages qui sont attaqués. Et puis ce nématode va aller attaquer cet otorynque qui, ma foi, malheureusement passera de pas à trépas.
Donc en fait, c'est un petit insecte qui tue le petit insecte méchant.
Exact,
c'est
ça. Oui, c'est ça.
Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il pose d'autres problèmes, ce petit insecte?
Non, parce qu'une fois que l'otorynque a vraiment diminué au niveau de sa densité, automatiquement, le nématode ne pourra pas se reproduire davantage et puis ne causera pas d'autres problèmes dans votre potager.
Eh bien voilà, donc Marie, hein, votre basilic n'est peut-être pas complètement mort.
Non, peut-être pas.
Peut-être pas. Félix de Delémont nous avait envoyé un SMS durant l'été. C'est la question récurrente, mais quand même importante. Combien de fois faut-il arroser une orchidée par semaine, par mois? Quel est le meilleur moyen de garder ces orchidées jolies?
Alors oui, bien sûr. Bonjour Alice. Ces orchidées donnent beaucoup de travail selon les périodes et puis d'autres périodes, il faut vraiment les oublier. Alors, durant la saison estivale, il faut quand même les arroser une à deux fois par semaine. Pas les bassiner parce que ce serait peut-être trop d'humidité d'un coup, mais en tout cas deux fois par semaine, vous pouvez adjoindre un peu d'eau dans la sous-tasse de votre orchidée. Et puis arriver sur l'automne, quand la grande et les grandes ampes florales ont diminué, ne se développent plus, là il faudrait simplement l'oublier dans un coin de votre garage, de votre véranda, de votre, enfin d'un espace où il fait pas trop chaud, avec de la luminosité. Et puis le fait de l'oublier, l'orchidée va se mettre gentiment en hivernage, en se disant qu'elle est sur une période de repos. Et puis, après ce temps d'attente d'un mois et demi, deux mois, là, vous la ressortez gentiment sur la lumière avec de l'humidité. Et puis là, elle va être très vigoureuse, elle va redévelopper énormément de fleurs parce qu'elle sera stimulée par, pour elle, un nouveau printemps, en fait.
Donc, en fait, vous déconseillez de jeter les orchidées, finalement.
Ah, oui.
Après, parce qu'il y a beaucoup de monde, quand même, qui, une fois que les fleurs sont fanées, qu'elles sont toutes tombées, elles jettent
non,
les orchidées. Donc, non, on peut les garder.
Ah, c'est vraiment dommageable. Oui, non. Puis, c'est une plante hyper résistante. Il faut savoir, c'est un peu primitif comme plante. L'orchidée, déjà, elle vit dans un substrat qui n'en est pas vraiment un. C'est des déchets d'écorce avec un peu de sable, un peu de terreau. Et puis, non, comme c'est une plante super résistante, c'est quand même vrai, quand elle a fini de fleurir sur le coin de la table de la cuisine, elle donne un peu désolation. Mais vous l'oubliez gentiment dans un espace où vous ne la voyez pas forcément, et puis tout à coup vous voulez vous dire « Ah zut, elle est là, ben on y va, on remet une dose d'humidité, puis vous allez voir, elle va s'épanouir à merveille. »
C'est vrai que les orchidées, c'est un sujet qui revient assez souvent. Hein.
C'est vrai, elles sont jolies.
Toujours un problème d'arrosage, mais cette fois pas pour les orchidées, mais pour le basilic. Si Agnès de la Neuville a laissé sa plante à sa voisine, mais qu'il l'a mal arrosée, comment on peut la récupérer ?
Oh, tout simplement en rachetant un nouveau plant de basilic et puis en le replantant, en remplaçant celle qui est sèche. Si elle est sèche, elle ne va pas redémarrer. Le basilic, c'est une plante annuelle hein, qui passe son existence du printemps à l'automne. Ce n'est pas une plante vivace comme une rhubarbe ou un romarin ou une lavande. Et puis si elle est sèche, elle ne va de toute façon pas redémarrer.
Et on rappelle hein, que vous pouvez poser vos questions au 0901 70 20 20 en direct ou alors au 939. Sarah, comment on fait ?
Vous écrivez le mot jardin en début de message, vous laissez un espace et là, bah, vous laissez libre cours à votre imagination et à votre question surtout, et vous envoyez le tout au 939.
Nadine de Neuchâtel nous demande « Mon pêcher de pêche plate n'a donné que 2 pêches comestibles cette année. Les pêches pourrissent avant d'arriver à maturation. » Alors Nadine, elle se demande si elle peut faire quelque chose pour avoir de plus beaux fruits.
Oui, alors Nadine, bonjour. C'est vrai que ces pêches, surtout sur le littoral, doivent se développer à merveille. Vous devrez avoir une super récolte. Il est fort probable que vous manquez d'éléments nutritifs au niveau du sol. Et puis à la maturation, étant donné que le pêcher demande énormément d'éléments pour tirer en avant sa fructification, les éléments manquants font que vous avez ce milieu de pêche qui se désagrège et puis quand vous le cueillez, qui n'est pas du tout intéressant à consommer. Cherchez dans les produits, dans les engrais arboricoles avec une petite dose d'engrais, vous devriez arriver à compenser cet élément pour l'année prochaine. Mais il faut déjà mettre cet engrais dans le courant du mois d'octobre-novembre pour que quand la sève est descendante, l'abricotier puisse déjà faire un peu de réserve. Et puis vous pouvez redonner une petite dose d'engrais sur le courant du mois de février, sachant qu'il faudra un certain temps pour que l'engrais descende et puis qu'il soit assimilable par la plante. Vous le mettez au mois de février quand l'abricotier démarrera dans le mois de mars-avril, et bien ces éléments nutritifs feront que vous aurez une super mise à fruits.
Merci Jean-Pierre Ribaud. Je vous dis, Jean-Pierre Ribaud est là pour vous, alors profitez-en. Vous pouvez nous écrire un SMS, vous tapez le mot jardin suivi d'un espace et vous envoyez le tout au 939. Et vous pouvez aussi nous appeler pour parler directement avec nous et surtout avec notre jardinier professionnel. Le numéro, c'est le 0901 70 20 20.
Une petite respiration et on retrouve Jean-Pierre et vous Sarah.
7h, 8h, les jardinières.
Ne faites pas vos timides parce que c'est la rentrée. Allez-y, c'est le même système que l'année dernière. Vous prenez votre téléphone, vous écrivez le mot jardin, vous laissez un espace et vous écrivez votre question que vous allez poser à Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queue, et vous envoyez le tout au 939. Vous pouvez aussi nous appeler, c'est très simple. Il suffit de composer le 0901 70 20 20 et vous discuterez avec nous.
D'après le calendrier lunaire, Jean-Pierre, aujourd'hui, il faudrait tailler les haies et tondre le gazon. C'est Marguerite des Émibois qui nous parle de ça. Est-ce que vous conseillez aussi de tailler les haies et tondre le gazon aujourd'hui ? Est-ce que c'est une journée propice ?
Bonne question. Bonjour Marguerite. Alors je dirais que pour les haies, ça peut être une très bonne journée, mais en tous les cas, on ne pourra pas tailler toutes les haies qu'il y a à tailler ce jour. Sinon, il y aura trop de bruit dans toutes ces petites communes, ce sera compliqué. Et puis, au niveau de la tonte des pelouses, eh bien, c'est la même chose. Samedi se prête super bien pour ce travail, peut-être pas trop tôt, pas trop tard, mais après, au niveau du résultat, selon le calendrier lunaire, je ne pense pas qu'il y aura une très très grande incidence sur ces deux travaux qui seront réalisés ce jour même. Ce qu'il faut quand même juste préciser, c'est qu'au niveau de la taille des haies, que ce soit du thuya, du charme, du hêtre, du troène, du laurier. On est vraiment à cette période en phase finale du développement du végétal. Et puis le fait de tailler votre haie maintenant, elle sera super belle jusqu'au mois de mai 2018 parce que c'est seulement à partir de mai 18 qu'elle va se remettre en développement et puis qu'elle sera un petit peu ébouriffée. Alors le mois d'août est la période idéale pour une taille de haie. Pour autant que ce ne soit pas une taille trop, trop méchante, parce que certaines fois, comme les haies de charme qui se développent des fois d'une largeur d'un mètre 50 à 2 mètres, eh bien, on a volontiers envie de lui diminuer de moitié cette largeur. Et puis, si on fait cette attaque-là un peu trop méchamment sous les périodes trop ensoleillées qu'on a vécues il y a 15 jours, 3 semaines, on peut occasionner un petit peu des dégâts de brûlure du soleil sur les troncs. Mais maintenant, fin août, plus de soucis, on peut attaquer toutes ces petites plantes.
Vu qu'on parle de haies, ça a dû inspirer Stéphane de Villeray, puisqu'il nous a écrit un SMS et nous demande « Ces haies de buis sont en train de sécher, que doit-il faire ?»
Oh Stéphane, bonjour, ça c'est plutôt compliqué, vous êtes victime de la pyrale du buis, c'est ce petit parasite, une petite chenille verte qui s'est développée déjà pour la deuxième fois dans le mois d'août cette année. Vous remarquez maintenant le dégât, mais le parasite est déjà parti parce que il a mangé toute la pousse de vos buis. Alors c'est vrai que c'est assez incroyable selon l'attaque que vous pouvez avoir sur vos buis, ils sont vraiment secs, ils dépérissent, et puis si l'attaque est trop virulente, il n'y a plus que la solution de remplacer cette haie. Si vous avez une petite attaque qui est basique, qui a attaqué qu'une petite partie du feuillage, peut-être avec l'observation, vous trouverez les dernières chenilles qui s'y traînent. Alors à ce moment-là, vous pouvez encore traiter. Mais le gros de la transhumance est passé, vraiment. Ces chenilles se sont déjà mis en cocon pour se développer en insectes. Et puis, il faudra être vigilant sur le mois d'avril, mai l'année prochaine, et puis faire des traitements plutôt préventifs, parce que on sait bien que maintenant le buis il sera chroniquement attaqué par cette pyrale. À se poser la question si le buis de chez nous pourra passer le cap de ces attaques répétées de la pyrale.
Merci Jean-Pierre pour cette réponse très très complète. À Stéphane, on a reçu un autre SMS d'Irène, cette fois-ci, qui a beaucoup de tomates. Mais par contre, ces tomates, elles éclatent tout en haut. Est-ce que, selon vous, c'est à cause de la chaleur ?
Oui, bonjour Irène. Ce qu'il faudrait voir, c'est certainement l'emplacement de la culture de vos tomates. Mais très certainement que c'est soit trop de luminosité, trop de chaleur, effectivement. Et puis elle éclate. Alors après, elle n'est pas très jolie visuellement, mais par contre, au niveau de la qualité de la tomate, elle n'est pas trop dégradée. On peut vraiment la manger, c'est pas un souci.
Sarah, je crois qu'on a reçu encore un autre SMS.
J'ai surtout un téléphone en ligne, Geneviève de La Chaux-de-Fonds, qui nous demande une question par rapport à ses ciboulettes.
Bonjour Geneviève.
Bonjour
Geneviève.
Bonjour madame.
Bonjour. Écoutez, j'ai une question concernant ma ciboulette qui est sur la terrasse. Elle se fait dévorer par des centaines de mini-moucherons qui viennent... Partout, et c'est minuscule. Et chaque année, j'ai une période d'attaque avec ces mini
moucherons.
Bestioles.
Oui. Oui. Donc, votre ciboulette se trouve dans un bac ou dans un pot ?
Oui, dans un très gros bac, exactement.
Un très grand bac. Et puis, l'aspect que votre ciboulette vous donne, elle est plutôt vigoureuse ? Elle a une forte vitalité ou elle est plutôt latente ?
Oui, elle est vigoureuse, étonnamment.
Elle est vigoureuse. Certainement que l'insecte que vous rencontrez, il est plutôt là. Vous avez vraiment du dégât sur la ciboulette ?
Alors, c'est surtout question d'hygiène.
Ouais,
je ne vais pas pouvoir manger ma ciboulette parce qu'elle est attaquée par ces pucerons minuscules. Mais alors, je n'ose pas trop mettre un insecticide. Après, je me dis, je ne pourrais plus manger ma ciboulette.
Oui, évidemment, oui.
Alors, je ne sais pas par quel biais. Pour finir, j'ai quand même mis une fois un insecticide qui les a éliminés, mais c'est revenu deux mois après.
Oui.
Ces attaques de.
C'était un vieux pot, une vieille plante là, votre.
Oui, c'est une. J'ai rajouté d'autres plantes qui se font attaquer, comme elles sont tout près, qui se font attaquer la même chose. Mais c'est des millions de têtes d'épingles, même pas. C'est minuscule, oui. Oui.
Mais je pense que le problème, il est plutôt du côté du terreau. Cet insecte, il vient plutôt pondre où il s'est développé dans le substrat de votre peau. Et puis évidemment, si vous en avez une très forte attaque, parce que votre peau, il se pose à une l'idéal pour cet insecte, eh bien, la multiplication fait que vous avez la sensation que c'est la ciboulette qui a été prise. Mais je pense plutôt que le problème, il vient du côté du terreau. Cet automne, ce qui serait peut-être judicieux de faire, ce serait de vider votre bac. Vous faites une bonne motte avec votre ciboulette, parce que c'est une plante vivace, la ciboulette, comme ça, vous pouvez la récupérer pour le printemps prochain. Et puis, remplacer votre substrat par un nouveau substrat de bac et terrasse. Quelque chose qui est vraiment conçu pour le bac, parce que si vous achetez un simple terreau du commerce, il n'aura pas le potentiel de rétention suffisant pour garder l'humidité durant l'été. Par contre, si vous achetez un terreau spécial bac et terrasse, alors il a été conçu par le vendeur pour justement assimiler un maximum d'humidité à l'été pour redonner à la plante. Je pense que vous voulez régler le problème comme ça. Parce que je ne vois pas tellement la ciboulette attaquée par un parasite de ce genre.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il qu'il y a d'autres plantes à côté et les autres plantes ne sont pas du tout attaquées, c'est que la ciboulette.
Mais le dégât se présente comment sur votre ciboulette? Elle vient jaune, elle ne se développe pas, elle est trouée, elle est comment?
La tige est noire de petites bestioles. La tige est noire à la base et elle monte. Elles sont couvertes de ces mini mouches, en fait.
Et puis elle ne se développe plus, la ciboulette. Elle n'est pas venue à fleurs.
Alors, non, elle ne bouge pas trop. Elle reste un peu stationnaire, oui.
Oui, alors peut-être c'est quand même un parasite qui est piqueur, qui vient sucer la sève de cette ciboulette.
Ouais. Alors, et d'autres plantes à côté, j'ai de la menthe, j'ai du magie. Elles ne vont pas du tout, c'est toujours la ciboulette.
Oui, bon, oui, c'est un peu moins fort peut-être au niveau des parfums. Oui, alors sinon, ma foi, effectivement, le passage à l'insecticide ou au savon noir peut-être. Mais après, il faut attendre des délais de carence de 3 mois pour pouvoir consommer votre ciboulette.
Ce qu'on vous propose, Geneviève, c'est que vous essayez et vous nous tenez au courant. Comme ça, vous pouvez nous rappeler pour savoir si la ciboulette se porte mieux et si vous pouvez enfin la savourer. Merci beaucoup pour votre appel.
Merci Geneviève.
Merci.
Bonne journée.
Si vous voulez faire comme Geneviève, eh bien, le numéro, c'est le 0901 70 20 20. Et si vous préférez nous écrire, vous tapez le mot jardin, vous laissez un espace, votre question et vous envoyez le tout au 939.
Les jardinières.
Les jardinières sont de retour après notre pause estivale. Nous sommes toutes pimpantes pour vous aider à trouver des réponses à vos questions jardinage. Enfin, c'est surtout Jean-Pierre Ribaud, hein, paysagiste, qui pourra vous éclairer.
Nous avons reçu un appel de Marcia qui nous appelle directement de Fribourg. Et oui, les jardinières vont loin. Elle est avec nous. Bonjour Marcia.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour madame.
Alors on écoute votre
Bonjour,
question.
Bonjour monsieur. Alors, je téléphone parce que nous avons des aoutas dans le jardin.
Oui.
Et nous nous faisons piquer beaucoup, autant nous que le chien aussi.
Oui.
Et j'aimerais savoir si on peut s'en débarrasser.
Oui, bien sûr. Vous devez traiter votre surface, votre espace, jusqu'à une raison de hauteur de 1m50. Ça veut dire que si vous avez des arbustes, des haies, des plantations, des choses comme ça, il faudrait aussi traiter sur cette hauteur-là, y compris vos pelouses, bien sûr, avec un acaricide. C'est un produit qui va combattre
D'accord.
justement l'acarien.
D'accord. Très bien. Merci. Alors, je vous remercie de votre réponse.
Parfait, merci.
Merci, Marcia. Bonne journée.
Bonne journée, Marcia. Merci d'avoir téléphoné. Nous avons également reçu une question par SMS. C'est Isabelle qui nous dit qu'elle a 2 cactus sur le bord de sa fenêtre. Et puis, elle demande si elle a bien fait de les placer à cet endroit parce qu'ils sont en plein soleil. Alors, selon vous, Jean-Pierre, est-ce que c'est un bon endroit où il y a peut-être une autre place plus propice pour les cactus?
Non, je ne pense pas. Bonjour, Isabelle. Non, non. Alors, ça dépend seulement de l'emplacement d'où ils provenaient avant cette mise en place. Sur fenêtre, ils sont effectivement comme nous, s'ils ne sont pas habitués à l'exposition plein sud et puis que de jour au lendemain vous avez décidé de sortir du mi-ombre et puis de les poser sur votre tablette de fenêtre où il va faire 40 degrés parce qu'on est encore sur une période où il peut faire très chaud, là vous risquez peut-être du dégât de brûlure du soleil. Après, si vous les adaptez gentiment à cet espace ou si vous les sortez sur la période de mi-mai parce qu'on a fini les gelées et puis le cactus peut se poser à partir de ce moment-là en dehors des espaces non gélifs chez nous, eh bien, il va s'habituer sans problème sur cette tablette de fenêtre. Et puis, il va passer l'été sans souci, bien sûr, parce que le cactus est une plante qui vient du sud, qui supporte les super ensoleillements. Simplement, pas oublier de temps en temps de lui donner un petit peu de fraîcheur. Comme ça, il va un peu se développer, parce que sinon, il peut rester là tant 1 année, 2 ans sans se développer. Moi, on aime aussi bien les voir un peu se développer, puis de temps en temps se développer des fleurs sur votre cactus.
Merci,
merci
beaucoup,
Jean-Pierre. Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. N'hésitez pas, je répondrai à votre appel. Et sinon, vous pouvez aussi nous écrire au 0939. Vous écrivez le mot jardin, puis vous laissez un espace et vous écrivez votre question. Et on lira votre question à Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, qui est avec nous aujourd'hui.
Et comme Samuel de Fleurier qui nous a envoyé cette question, j'ai planté l'automne dernier un cerisier dans mon verger. Depuis quelques jours, les feuilles noircissent et jaunissent. Selon vous, quelle est cette maladie et surtout comment l'éradiquer, si vous savez ce que c'est ?
Oui, bien sûr. Bonjour Samuel. Certainement que votre cerisier qui a été planté l'année passée n'a pas beaucoup développé de serments cet été, parce que bien sûr, il a une transplantation toute fraîche. Il a dû se remettre en place au niveau des racines dans le sol pour pouvoir emmagasiner un maximum de réserves pour le démarrage alors de 2018. Et puis en cette période de fin août, vous avez déjà les prémices de l'automne sur le cerisier, avec peut-être une petite attaque de moniliose, un champignon qui se développe sur votre feuillage. Il n'y a plus à combattre ce champignon à cette période, parce que de toute façon, vraiment, mi-août, c'est les premiers symptômes des pertes des feuilles qui jaunissent, qui s'étiolent, qui tombent, et puis il subit simplement ça, votre cerisier.
Nous avons reçu un appel de Lucienne de Baule, qui est avec nous.
Bonjour Lucienne.
Est-ce que, avant de poser votre question, je peux juste vous demander de baisser la radio que vous avez derrière vous, parce que ça fait un écho.
D'accord. Alors,
voilà. Je sais que c'est tentant de s'écouter, mais...
Voilà.
Encore un petit peu.
Il faudrait complètement l'éteindre, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait.
Merci,
on vous écoute.
Voilà. Alors, écoutez, moi, j'ai acheté des pépérones greffées qu'on met dans de l'huile. Est-ce qu'on peut faire de la semence pour l'année prochaine quand c'est greffé?
Alors oui, bonjour madame. Non, vous n'arriverez pas à faire. Oui, vous n'arriverez pas à faire de la semence de ce végétal qui a été greffé, parce que une bonne partie de tout ce qui se produit en greffe est vraiment propre à sa propre variété, et puis ne peut pas se multiplier hormis par partie végétative.
Ah,
c'est uniquement ça, vraiment.
D'accord. Et puis écoutez, j'ai aussi eu beaucoup de tomates qui ont eu le cul noir. Est-ce que c'est un manque d'eau ou bien...
Non, pas d'eau, plutôt d'espace d'air, peut-être. Ils étaient un peu camouflés. Il y a beaucoup de végétation.
Oui, peut-être trop serré.
Peut-être, oui. Vous savez, à un moment donné, sur la tomate, il ne faut pas se gêner d'y enlever presque la moitié du feuillage sur votre plant de tomate pour amener beaucoup de luminosité, pour avoir des tomates colorées et douces, quoi.
Peut-être bien que c'est ça, c'était un peu trop serré et puis trop épais.
Oui.
Moi, je pensais que c'était un manque d'eau, c'est pas ça.
Non, c'est en tout cas pas ça, c'est sûr. Non. Elle s'est bien développée, votre tomate.
Oui, elles sont développées, mais pas énormément, je dois dire, hein, parce que c'est des cœurs de bœuf, je pensais que ça aurait été peut-être un peu plus grosse. Hein.
Okay.
Mais ils ont eu beaucoup le cul noir, alors c'était peut-être trop... Serré.
Oui, après, il y a quand même la fameuse maladie, la datomate, qui les attaque. Après, il y a plusieurs systèmes pour essayer d'éradiquer ça. Il y en a aussi certains qui piquent le pied de tomate avec un fil de cuivre qui va oxyder et puis protéger le pied de tomate dans son développement pour ce champignon qui arrive de temps en temps, oui.
Ah, d'accord. C'est très bien. Je vous remercie.
Merci d'avoir téléphoné.
Bonne journée.
Bonne journée, Lucienne. Et si vous aussi, comme Lucienne, vous avez envie de poser votre question, que ce soit sur les tomates, basilic ou même votre verger, vos espaces verts, vos plantes d'intérieur, eh bien, vous nous appelez, Sarah, à quel numéro ?
0901 70 20 20.
Et puis il y a aussi la possibilité du SMS au 939. Vous notez votre question, vous notez d'abord jardin, un espace, votre question, et puis vous envoyez tout ça au 939 si vous n'avez pas envie de parler à la radio. Même si c'est beaucoup plus sympa ce matin, Jean-Pierre Ribaud est bien réveillé. On les attend, vos questions. On a Sandrine de Lovresse qui nous parle de figuiers. Je sais que vous aimez bien les figuiers, Jean-Pierre.
Je les adore.
Et cette année, en fait, chez Sandrine de Lovresse, les figues tombent et l'intérieur est marron noir. Alors, selon vous, quelle est cette maladie ou cette chose qui atteint les figues de Sandrine?
Ce phénomène, oui, c'est très certainement l'emplacement qui fait. Faudrait évidemment voir l'emplacement, faudrait voir le figuier, faudrait avoir un historique si c'est un figuier qui a 10 ans ou c'est la première saison végétative où elle rencontre ce problème, ou bien si c'est du chronique. Mais je pense plutôt que c'est un emplacement qui n'est pas forcément l'idéal pour ce figuier, puis qui n'arrive pas à maturation par le fait qu'il a des contraintes qui ne lui conviennent pas.
Merci beaucoup Jean-Pierre.
Merci.
Nous allons faire une petite pause musicale, une petite respiration, mais avant tout, Sarah va vous rappeler une dernière fois comment faire pour nous appeler. Je vous rappelle que vous avez plus que quelques minutes pour poser votre question jardinage à Jean-Pierre. Et je crois que Sarah, en fait, a un téléphone. Je viens de voir justement qu'elle était en ligne. Alors peut-être qu'on va mettre le titre et prendre la question juste après la chanson. À tout de suite.
7h, 8h, les jardinières.
Vous êtes nombreux à avoir choisi de nous appeler au 0901 70 20 20 ce matin. Et nous avons justement Sylvie de Provence qui est avec nous et qui veut vous poser une question, Jean-Pierre Ribaud.
Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Vous pouvez y aller.
Super. Bonjour à tous. J'ai un arbre à papillons et on m'a dit qu'il fallait que je l'arrache parce que c'était super toxique.
Oui.
C'est vrai.
Oh, c'est pas que c'est toxique, c'est plutôt une plante invasive qui est considérée comme plante à éradiquer chez nous parce que il se propage très rapidement dans des endroits où on ne souhaite pas forcément le voir pousser. Mais non, je n'ai pas compris la commune dans laquelle vous vous trouvez ou la région ?
Provence, canton de Vaud.
Ok, oui, alors effectivement, chez vous, je pense qu'il passe volontiers l'hiver. Chez nous, côté Port-en-Truy, par exemple, ou même la vallée de Glémont, ou les Franches-Montagnes, en tout cas tout le canton du Jura, ils sont gélifs, le boudléia. Donc, si vous en plantez un dans vos aménagements extérieurs, dans le canton du Jura, par exemple, par le fait qu'il va se faire supprimer naturellement au gel, il ne pourra pas se propager. Par contre, chez vous, par le fait que vous avez quand même un climat un peu plus doux, un peu plus lémanique, il y a de fortes chances qu'il arrive à se ressemer naturellement et puis qu'il soit justement colonisateur de zones, même agricoles, bord de route, bord de ruisseau. C'est là le problème. C'est pour ça qu'on préfère ne pas les implanter et plutôt les éradiquer, oui. Après, elle n'est pas toxique.
Parce que moi, je le taille l'automne. Hein.
Oui.
Je le rabats à 1 mètre du sol.
Oui, mais il aurait eu le temps de propager ses semences suite à la floraison qu'il a eue. Parce que, bien sûr, pour avoir un maximum de fleurs, le boudléia, on se permet vraiment de le rabattre très, très fort pour qu'il ait un maximum de pousses. Parce que c'est comme le rosier, c'est une plante qui donne ses fleurs sur le bois de l'année. Par contre, vu qu'il y a une quantité de fleurs, vous avez une quantité de semences. Et puis le risque, il est justement de cette propagation-là. Voilà.
Ouais, même que j'enlève les fleurs au fur et à mesure.
Alors, si vous arrivez à éradiquer les fleurs juste après floraison pour que la semence ne puisse pas partir par le vent, alors vous pouvez le conserver sans problème. Après, c'est pas une obligation légale pour le moment de dire qu'il faut supprimer le boudléia. Nous, jardiniers, on évite de les planter parce qu'en plus, chez nous, dans le canton, on a trop de dégâts, évidemment. Il faut les remplacer, puis on remplace par autre chose, on les met plus en place. Chez vous, si vous arrivez à éradiquer les semences, alors oui, bien sûr, vous pouvez le conserver.
D'accord, ok. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bon week-end à tous.
Merci, bon week-end.
Et un appel que nous avons reçu plus tôt dans la matinée a inspiré Michel de Courgenay. Alors, on parlait de parasites et de ciboulettes. Et Michel est là pour nous poser une autre question.
Bonjour.
Michel.
Oui, bonjour. Bonjour, M. Ribaud. Écoutez, vous avez eu votre première question qui concernait une petite bête qui attaquait ce qui était dans les herbes aromatiques.
La ciboulette,
et puis moi, j'ai le souci. Voilà, puis moi j'ai un autre souci, c'est que j'ai un petit jardinet sur pied qui doit faire 60 cm sur 30 de large. Oui. Il y a dedans tout ce qui est herbe aromatique.
Oui.
Et puis justement, moi j'ai regardé sous les feuilles, j'ai rien vu parce qu'il y a une petite bête qui doit venir, qui m'arrache, qui mange toutes les feuilles, si bien qu'il ne me reste plus que les tiges. Et puis par contre, elle n'a pas touché au romarin, au thym. Par contre, tout ce qui est ciboulette, persil, aneth, alors est-ce que c'est la même petite bête ou est-ce que c'est autre chose ?
Bon, la dame de tout à l'heure qui nous a parlé de moucheron faisait vraiment une observation dense de ce moucheron. Si vous n'avez pas l'aspect visuel du moucheron et puis que c'est un parasite qui vient simplement manger des parties végétatives, ça peut être bêtement une limace, un escargot. Après, on
a parlé... C'est en hauteur, hein, c'est un jardinier sur pied, donc il est à 1 mètre du sol, c'est un petit bac.
Oui.
Et puis on a changé la terre cette année.
Ok, mais quand même que dans votre terre, il y a des choses qui se peuvent développer, que vous aviez peut-être déjà avant, ou dans les mottes de vos végétaux. Vous devrez presque voir quand même, à un moment donné, l'insecte ou un excrément d'insecte, de larves, de trucs comme ça. C'est presque impossible que vous...
Alors, il y a comme des petits points blancs par terre, sur la terre. J'ai vu à certaines places, sous les plantes qui ont été mangées, ça, on dirait quelqu'un comme s'il y a du sucre un petit peu. Ça fait un peu comme sucré.
Mais s'il y a du sucre,
blanc.
Alors c'est possible que s'il y a du sucre, vous devrez quand même voir l'insecte, parce que le sucre, c'est quelque chose qui se développe sur l'excrément du puceron volontiers, parce que c'est un peu sucré, et puis vous avez justement ce champignon qui se développe là-dessus. Vous devriez quand même vous devriez voir la bête. Il y en a peut-être pas forcément beaucoup, ça peut être aussi quelque chose de volant. On a eu passablement d'attaques d'hanneton dans le courant du mois de juillet. Maintenant, je ne sais pas si vous avez encore du dégât. Ça pourrait être simplement de l'hanneton qui arrive. Oui, mais vous devriez voir quelque chose à un moment donné.
Ouais,
parce qu'une lutte contre quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Il faudrait quand même avoir l'observation avant. D'ailleurs, juste...
Ok, je vais faire attention, je vais essayer d'aller comme il faut,
oui. Oui, noter peut-être que, oui, encore juste une petite précision par rapport à la dame de la Chaux-de-Fonds qui nous a demandé tout à l'heure au niveau de la lutte concernant ce moucheron qu'elle avait sur cette ciboulette. Hors antenne, on a eu une réponse d'un jardinier amateur qui nous a dit, lui, il les avait combattus simplement avec du vinaigre qui était posé dans des sous-couples de pots de fleurs. Et, cette personne mettait du vinaigre dans ses sous-couples sous les plantes où ce moucheron se trouvait. Et puis le moucheron qui adore ce vinaigre venait simplement s'y noyer, puis comme ça, la lutte était biologique et efficace.
Ouais, d'accord. Ok, ben, je vous remercie beaucoup.
Merci d'avoir appelé. Vous nous tiendrez
au courant. Bon week-end, au revoir.
Merci, au revoir.
Et bien sûr, c'est vrai que si vous voulez par la suite nous tenir au courant de l'évolution de vos jardins, il n'y a pas de souci, un petit coup de fil au 0900 70 20 20. Ça nous fait toujours plaisir, ça fait également plaisir à Jean-Pierre qui est là ce matin. Pour encore quelques minutes, on vient de recevoir un SMS. Alors, on revient sur cette question des orchidées. Jean-Pierre, vous aussi, grand fan des orchidées. Est-ce que vous pouvez répéter rapidement pour cette auditrice, à quelle fréquence il faut arroser l'orchidée?
Mais il faut arroser en tout cas deux fois par semaine avec douceur, il ne faut pas les bassiner complètement, ça n'envoie pas la chandelle. Et puis vous tenez cette humidité là sur les périodes du mois de mars jusqu'à août, septembre. Et puis à partir de là, normalement les ampes florales vont s'étioler, vont sécher et tomber. Et puis à ce moment là, vous allez simplement, comme on a dit, les oublier dans un coin de votre appartement, mais où il ne fait quand même pas trop chaud, plutôt un peu frais avec de la luminosité. Et puis la laisser une période stagnante, ça lui permettra à elle de régénérer un peu ses ressources. Et puis quand vous réactiverez l'arrosage dans le courant du mois de février-mars, eh bien elle va sentir un nouveau printemps, puis elle va repartir justement avec une quantité de démarrage d'ampe florale.
Donc il y a plusieurs périodes pour l'orchidée.
Tout à fait.
Donc c'est bien de les respecter. Merci beaucoup Jean-Pierre. Vous pouvez nous envoyer vos SMS et nous appeler. Ça sera pour la semaine prochaine. Si vous nous appelez, on prendra volontiers votre question. Sarah, vous allez nous rappeler les moyens avec lesquels les gens peuvent nous poser leurs questions jardinage.
Alors, il y a tout d'abord le SMS. Vous tapez le mot « jardin », vous laissez un espace, vous écrivez votre question et vous envoyez le tout au 939. Vous pouvez aussi nous envoyer des formulaires internet sur, le site, sur les sites internet des radios. Vous trouvez tout simplement sous l'onglet « jardinière » un formulaire à remplir que nous recevrons durant la semaine. Mais il est aussi possible de nous appeler en direct, comme vous êtes nombreux à l'avoir fait ce matin. Vous appelez le 0901 70 20 20. Vous pouvez déjà enregistrer le numéro de téléphone.
Et le temps file, Sarah, surtout quand on est en bonne compagnie. Il est l'heure de nous dire au revoir et de vous remercier, Jean-Pierre, pour tous les précieux conseils que vous nous avez procurés ce matin et que vous avez procurés aux auditeurs.
Merci à vous, c'était super. Bonne journée et bon week-end à tout le monde.
Bon week-end. On va faire place au journal de 8h. Rendez-vous samedi prochain dès 7h pour répondre donc à toutes vos questions jardinage. Des questions que vous pouvez d'ailleurs nous poser tout au long de la semaine, comme vient de le dire Sarah. Bon week-end à tout le monde. Et à très bientôt.
À la semaine prochaine.
7h, 8h. Les jardinières.